Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi et c'est le 9 février. Je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue au 98.5. La bonne nouvelle ce matin, au chapitre de la météo, c'est que pour Montréal, le bulletin spécial ou les alertes ont été éliminées. Ce qui fait qu'on a autour de moins 7 avec un ciel dégagé et le mercure va grimper jusqu'à 1 degré aujourd'hui. Ennuagement de la neige qui commence cet après-midi. Potentiel de pluie à travers tout ça, là, parce qu'on est autour de 0 degré, mais donc de pluie, de pluie verglaçante. Au total, c'est une accumulation de neige de 2 à 4 cm qui est prévue et un refroidissement éolien de moins 9 ce matin. Ce soir et cette nuit, c'est de la pluie. Peut-être encore là, un peu de pluie verglaçante, davantage du côté du nord. Et c'est une quinzaine de millimètres de pluie qui est prévue, ce qui est quand même beaucoup. Et les températures seront à la hausse pour atteindre plus 4 au cours de la nuit. Finalement, demain, ben, c'est de la pluie toute la journée avec des vents jusqu'à 70 km heure. C'est pas une très belle fin de semaine. Par contre, le week-end s'annonce, plus qu'adéquat. Moins 3 avec du soleil samedi, plus 2 avec soleil et nuages pour dimanche. Je le disais d'entrée de jeu ce matin, la question qui nous résonne depuis hier, là, ça va faire 24 heures. Pourquoi? Comment ça se fait qu'un tel drame s'est produit? Personne ne la répond ce matin, à part peut-être l'individu responsable. Mais c'est important de regarder les faits puis de voir qu'est-ce qu'on sait sur le fil des événements. L'homme en question, 51 ans, on le disait, chauffeur à la STL, pas d'antécédent judiciaire, quelqu'un de discret, d'effacé. Je me méfie toujours un peu des étiquettes qu'on donne aux individus, là, parce que ça peut cacher bien des choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas quelqu'un qui a donc des antécédents connus, c'est pas quelqu'un qui a fait des crises au travail. Ce qu'on comprend, c'est qu'il a pris le volant de son autobus hier, il a dû faire son circuit, et puis rendu au bout du circuit, il a décidé de foncer dans une garderie. Et hier matin, on avait tous ce sentiment étrange, puis je remercie les chauffeurs de la STL qui m'ont envoyé des photos très tôt hier, et on voyait que ça n'avait aucun sens. On ne peut pas penser que c'était un accident, quelqu'un qui perd le contrôle, la force de l'impact, espèce de rond-point qu'il fallait contourner. Donc, on se retrouve avec quelqu'un qui était désorganisé, agressif, violent, que les policiers ont eu un certain coefficient de difficulté à maîtriser, là. Et puis, même une fois détenu, il a bousculé un policier. Et le juge a dit, bon, on va le faire examiner par un psy, puis ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il est dangereux, ce gars-là. A l'air de vouloir collaborer, parle pas trop de ce qu'on a compris. Donc, le bilan, 2 enfants tués, 6 autres blessés. La bonne nouvelle, ils sont maintenant hors de danger. Et les accusations déposées sont quand même les plus graves. Là. On parle de meurtre au premier degré dans 2 cas, puis de voies de fait graves. J'aurai l'occasion de faire entendre plusieurs témoignages au cours de l'émission. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas un Québécois ce matin qui n'est pas interpellé par les événements d'hier, que l'on soit parent ou non, qu'on ait des jeunes enfants, des petits-enfants. C'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est incompréhensible, évidemment, pour les gens directement touchés. Cette espèce de sentiment de sécurité, je dirais de paix relative, là, mais quand même, qui accompagne tous les parents qui, tous les matins, vont conduire les enfants. Tu sais, tu dis, je m'en vais à la garderie, je dépose mon enfant, je vais le reconduire, puis je repars, puis je reviendrai le rechercher. Puis à 8h30 le matin, il y a quelqu'un qui décide, et on ne sait pas pourquoi encore, qu'il va briser la vie de ses enfants et de ses familles. Et là, je me mets à votre place ce matin, alors que vous vous préparez à répéter l'exercice. Dans, je sais pas, une heure et demie, deux heures, puis aller reconduire les enfants. Puis on peut pas protéger les enfants de la nouvelle, là. Je sais qu'il y a plein de conseils qui sont donnés par des experts depuis hier, puis on va faire notre contribution aussi ce matin, mais les enfants, ils savent, là. Ils perçoivent que il s'est passé quelque chose, puis quelque chose de grave. Puis c'est sûr que ils voient leurs parents plus songeurs, peut-être. Des parents qui m'écrivent, qui depuis hier soir bercent leurs enfants. Puis il y a une éducatrice de garderie qui m'a écrit, là. Fred parlait tantôt de cette opération avec les toutous et avec l'espèce de petit drapeau blanc. Ben, elle a travaillé à faire ça dans les dernières heures. Et je pense aussi beaucoup aux premiers intervenants. Qui hier ont été appelés sur les lieux. La photo à la une de la presse est absolument la photo qui, en tout cas je pense, traduit le mieux comment un premier répondant se sent. Si vous l'avez pas vu, là, elle est disponible là, à la Presse Plus. C'est un intervenant, un pompier, qui transporte un enfant, qui est vivant, et qui va donc remettre l'enfant, j'imagine, à ses parents. Mais c'est le regard de cet intervenant, de ce premier répondant. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit hier, de la STL, des paramédics, des services d'urgence. Et même si tu as la meilleure formation au monde, d'être plongé dans une crise comme hier, dans un drame, t'es complètement KO. Et je fais entendre le directeur du service de police de la ville de Laval, Pierre Brochet, qui s'est rendu sur place hier, puis les premiers commentaires qu'il fait traduisent, je pense bien, là, ce que ces hommes et femmes ont vécu.
Je suis arrivé très rapidement sur la scène ce matin. J'ai moi-même de la misère à retenir un peu mes émotions parce que j'ai vu des patrouilleurs qui étaient en larmes ce matin. C'est difficile. Vous savez, le métier de policier, on est prêt à confronter beaucoup de situations, mais quand c'est des enfants, c'est extrêmement difficile. Ça fait que, puis on a tous des enfants, des petits-enfants, c'est difficile. C'est dur à vivre, là.
Je vais ajouter quelques notes à ce dossier ce matin. D'abord, pour vous parler de l'univers politique. On a vu la réaction de beaucoup d'élus hier, le premier ministre Legault, qui sera à Laval ce matin avec les chefs d'opposition. Et c'est toujours un casse-tête pour un politicien qui est interrogé, qui doit réagir devant de tels événements. Tu sais, tu dis quoi? Tu veux pas avoir l'air de quelqu'un qui exploite une situation, tu veux pas avoir l'air de quelqu'un d'indifférent, il faut que tu trouves les bons mots, il faut que tu sois présent. Mais c'est un casse-tête, là. C'est un casse-tête. Et j'ai trouvé hier que l'ensemble de la classe politique avait affiché, appelons ça, un sens de la retenue, une grande dignité, et que la partisanerie, le temps d'un moment tragique, s'est évaporé. Et c'est sûr que quand j'entends M. Trudeau dire « nous serons là pour accompagner les parents dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois », on s'entend que c'est des belles phrases, là, mais ça veut dire quoi? Mais c'est plus ou moins important. Puis je suis convaincu qu'encore ce matin, ça sera une opération quand même importante. Il faut que les gens sentent que leur leader, que leur dirigeant soit présent. Le maire de Laval aussi a été très bon dans les circonstances. Et souvent, on chiale contre les politiques, là, mais dans ce cas-là, je pense que c'est important de mettre en lumière le côté positif. Donc, en résumé, ce qu'on veut savoir, puis qu'on va peut-être apprendre tranquillement, c'est pourquoi. Pourquoi cette personne-là a décidé de foncer dans une garderie en sachant l'impact, là, en sachant qu'il est 8h30, puis qu'il va blesser, tuer des enfants. Puis je vais juste finir en ayant une pensée pour sa conjointe. Ce que je comprends, c'est qu'il a une conjointe et des enfants. Je ne sais pas comment elle peut aider, ce qu'elle sait, ce qu'elle a pu peut-être ou pas décoder. Mais elle aussi, elle se retrouve complètement KO, sans doute. Tu sais, ton conjoint s'en va travailler, puis tu regardes la suite des choses. Puis j'entendais hier, je pense, le docteur Chamberlain qui disait on développe pas de maladie mentale, ou en tout cas de façon générale, à 51 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une dépression? C'est une crise? C'est difficile, disons, à dire. Mais ce matin, j'en profite pour vous parler d'une étude qui est publiée, entre autres, dans Le Devoir, qui a été menée auprès de 18 000 Québécois de 12 à 25 ans qui fréquentent les écoles, les cégeps, les universités et qui portent sur l'anxiété. Et la conclusion, puis là, les chiffres sont, me semble-t-il, élevés, là, mais quand même, 52 % des filles au secondaire, 56 % des filles au cégep et à l'université présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression. En gros, c'est une fille sur deux, jeune fille, jeune femme au Québec, qui a des problèmes d'anxiété ou de dépression. C'est vu comme, de façon positive, la preuve qu'elles sont près de leurs émotions. Mais en même temps, quand vous grattez, et même Dr Mélissa Généreux, qui est médecin conseil à la santé publique de l'Estrie, qui est responsable de l'enquête, dit on a dû comme valider deux ou trois fois les données parce qu'on n'en revenait pas. Quand vous demandez aux gens les idées noires que vous avez, ça dure combien de temps? Puis vous les avez depuis donc quand? 10 % des jeunes disent ressentir un mal-être profond une journée sur deux. C'est quand on parle là, globalement de que les gens vont pas bien puis que des problèmes de santé mentale, ben là, on commence à avoir un certain nombre d'indications. Ce qu'on découvre aussi, c'est que les jeunes qui passent beaucoup de temps, ben on découvre, disons qu'on a une confirmation additionnelle, beaucoup de temps devant les écrans, ben sont ceux qui ont le plus tendance à avoir des symptômes, ou en tout cas des signes d'anxiété et de dépression. Puis l'autre phénomène à ne pas nier et à ne pas négliger, c'est le fait que beaucoup de jeunes, à partir même de secondaire 1, doivent concilier études-travail. Et c'est un pourcentage élevé. La moitié des jeunes dans notre enquête montrent, avec des emplois plus ou moins, là, qui demandent plus ou moins de temps, mais quand même, là, la moitié des jeunes au secondaire déjà ont un emploi secondaire 1, 2 ou 3. Coup d'œil sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. D'abord, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le bilan qui s'alourdit, plus de 16 000 morts jusqu'à maintenant dans les deux pays. On parle de millions de personnes sans abri. Et les espoirs de retrouver des survivants, ben ça s'effiloche d'heure en heure. Conditions climatiques de plus en plus difficiles, particulièrement la nuit. En Turquie, il y a beaucoup de survivants qui n'ont plus accès à l'eau, l'électricité, le chauffage, sur un parcours quand même assez long. Et ce qui s'ajoute en Syrie, c'est la difficulté de faire acheminer l'aide internationale. La Syrie qui a fait une demande, entre autres, à l'Europe. Et on sait qu'il y a quand même des boycotts, il y a des sanctions qui ont été imposées. Il y a beaucoup de réfugiés syriens qui se trouvent également près de la Turquie. Donc, pour la Syrie, là, au-delà de la catastrophe, s'ajoute le poids de ces mesures internationales. Et également, coup d'œil sur l'Ukraine, pour vous dire que le président Zelensky est à Bruxelles, sommet des 27, et on sait qu'il va obtenir ses chars d'assaut. Il veut maintenant des avions de combat. Il y a eu des rencontres, entre autres, avec le président Macron. On a un peu, disons, calmé ses ardeurs, mais en disant que l'Europe sera toujours derrière l'Ukraine. Et le président Zelensky a envoyé une phrase dans les dernières heures. « Si vous laissez tomber l'Ukraine, c'est votre mode de vie qui va disparaître. » Tout ça alors qu'on a ces rumeurs voulant que la Russie se prépare dans les prochaines semaines à une offensive quand même majeure. Rapidement, dans les autres nouvelles, il y a tout le dossier de la santé, l'entente avec le fédéral et beaucoup de voix qui s'élèvent depuis hier pour dire que le premier ministre Legault semble mou. Il est plus émotif que ça d'habitude, il est plus sanguin. Et on comprend pas, compte tenu du faible montant qu'il a reçu, jusqu'à quel point sa réaction a été de dire « ben c'est ça, on va prendre ce qui passe ». Et c'est bizarre de voir des partis d'opposition plus agressifs que lui et de lui rappeler qu'il faut qu'il défende les intérêts, évidemment, du Québec. Et M. Legault a dit, ben non, non, on est dans un processus de négociation. Puis il a dit aux Québécois, quand vous irez voter au fédéral, ben vous vous rappellerez de cette position-là. Également, j'ai amorcé un peu la discussion avec le ministre des Finances hier, M. Girard, sur l'idée de faire passer la retraite, l'âge minimal de la retraite, là, de 60 à 62 ans. Pour être bien clair ce que ça veut dire. D'abord, un, la décision de prendre une retraite, c'est personnel. C'est votre choix. L'État, avec le régime public, a dit, si vous prenez votre retraite à 60 ans, vous êtes pénalisé financièrement. Plus vous attendez, plus le montant que vous allez recevoir va être important. Il y a des gens qui décident, malgré ça, puis je pense que c'est même le tiers, là. Non, non, moi j'arrête à 60 ans à cause du genre d'emploi, je suis rendu ailleurs dans ma vie, et beaucoup même se disent, pourquoi attendre? Est-ce que je serai là dans 5 ans? Puis bon, mais je rappelle, c'est un choix. Ça veut dire que de ramener ça à 62, ça garde 2 ans de plus les gens sur le marché du travail. M. Girard nous dit que c'est pour la sécurité financière des Québécois. On peut aussi penser que dans le cas d'une pénurie de main-d'œuvre, c'est pas non plus à dédaigner. Mais et on a vu un blocus s'organiser pour justement stopper cette idée ou tuer cette idée-là. La présidente de la FTQ hier a été quand même, je pense, assez claire là-dessus. Quand elle a dit, c'est pas vrai qu'on va demander à des gens qui sont déjà vulnérables, des gens qui emploient qui ont des emplois qui je dirais, épuisent, que vous allez faire 2 ans de plus sur le marché du travail, puis s'ils sont prêts à prendre leur retraite puis à toucher un peu d'argent, ben pourquoi pas. Puis après ça, ben ça demeure des choix. Puis on le voit en France avec tout le débat sur l'âge de la retraite. Puis Madame Magali Picard n'a pas exclu des moyens de pression. Alors, est-ce que les gens vont sortir dans la rue pour ce qui est des caisses de retraite? À voir. Un mot également sur une étude de l'Institut du Québec qui sort aujourd'hui. Il y a beaucoup d'emplois payants qui ont été créés depuis la pandémie. Puis ce qu'on constate également, c'est que quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, c'est pas très surprenant, ce sont des emplois qui demandent pas beaucoup de formation puis qui sont pas très payants. Puis des emplois qu'on va avoir de la misère à combler. Et tu sais, travailler dans un resto rapide au salaire minimum, il y en a qui le font, mais il y en a qui veulent plus le faire. Et j'ajouterais un autre chiffre ce matin qui est assez particulier, c'est de voir le pourcentage de gens qui s'absentent pour des raisons d'angoisse ou des congés familiaux. Les chiffres ce matin là sont quand même assez hallucinants là, quand vous regardez ça. On parle d'un taux d'absence qui est en croissance. Je vais conclure donc la revue de presse en vous disant, depuis hier, on parle de santé mentale encore plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du gars? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a décidé de foncer en sachant qu'il allait blesser et tuer des enfants? On n'a pas de réponse. Il est détenu, il a comparu, il est accusé. Puis là, on se dit tous, c'est clair qu'il y a un problème de santé mentale. Puis je voyais des vox pop où les gens disaient, le monde de plus en plus fou. Puis c'est forcé de constater à partir des chiffres qui nous arrivent ce matin, qui confirment ce qu'on voit déjà, c'est le nombre de personnes qui, puis je le voyais aussi pour la France, qui ne se reconnaissent plus comme avant dans leur travail, qui n'y trouvent plus la motivation d'avant, combiné parfois avec un contexte économique plus difficile, on le voit avec l'inflation, les taux d'intérêt, des jeunes, l'étude dont je vous parlais au début, qui sont de plus en plus anxieux, déprimés. C'est comme s'il n'y avait pas de soleil, ben, à l'horizon pour beaucoup de monde. Je voulais juste finir avec ça ce matin. Je trouve que ça fait réfléchir un peu. Puis comme je vous le dis, on aura un ton un peu différent, spécial. On va mettre un peu de musique dans l'émission. On va être un peu plus léger aussi. Mais juste vous dire qu'on est avec vous ce matin. Puis merci d'avoir fait ce choix radiophonique. Mais on va essayer de vous accompagner le mieux possible à traverser ces moments qui sont pas simples. Puis je répète, je pense aux premiers répondants, puis je pense aux parents qui regardent le petit dans la cuisine le matin, puis on s'en va à la garderie tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Bon.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Ça va faire 24 heures dans une heure qu'un homme au volant d'un autobus de la STL a littéralement foncé vers une garderie, a percuté la structure. Deux enfants ont perdu la vie, 6 autres ont été blessés. La bonne nouvelle, c'est que les blessés, nous dit-on, sont hors de danger. Hamdi Ben Chaban est le voisin de la garderie. Il était chez lui hier matin quand il a entendu ce bruit sourd, évidemment qui a surpris tout le voisinage. Il est donc en bout de ligne ce matin. Monsieur Ben Chaban, bonjour.
Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Paul. Comment allez-vous?
Bien, c'est à moi de vous poser la question. Comment vous allez ce matin?
Ah, ça passe. On a eu la difficulté à dormir, mais ça passe. Ça passe.
Vous avez réussi à décanter un peu ce qui s'est passé hier matin?
Peut-être. Bon, réellement, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, même jusqu'à 2h, 3h du matin. J'étais obligé de le mettre en silencieux. Et j'ai essayé de dormir un peu. Malheureusement, j'ai pas arrivé jusqu'à presque 3h, 3h30 du matin, où j'ai pu au moins prendre un petit 3h pour me reposer un peu.
J'apprécie que vous soyez là ce matin. Est-ce qu'on pourrait ensemble revivre un peu ce qui s'est passé hier matin? Vous étiez chez vous donc à 8h30 quand vous avez entendu ce bruit.
En fait, comme j'ai déjà dit, c'était ma femme réellement. Parce que moi, j'étais en train de suivre un cours en ligne parce que je fais des études en ligne dans mon salon. Le bruit a été entendu par ma femme qui a commencé à dire des choses que j'arrive pas à comprendre parce qu'elle criait. Elle a tout juste regardé à partir de la fenêtre pour voir que le bus a défoncé la garderie. Donc elle m'a demandé d'aller voir vite qu'est-ce qui se passe. Donc je suis sorti et à partir de là que tout a commencé réellement. C'était 3 petites minutes, mais réellement c'était trop vite en fait. Le premier réflexe que j'ai eu, j'ai appelé la police. En entrant, j'ai trouvé un parent, un brave type vraiment, c'est le héros qui était en train d'essayer d'ouvrir la porte pour maîtriser le chauffeur. On a essayé de le maîtriser, de le mettre par terre. Comme j'ai dit auparavant, il a retiré ses vêtements, il a été tout nu, donc on a essayé de le maîtriser. Il y a deux autres parents qui sont venus avec moi pour nous aider. Entre-temps, j'ai laissé les parents essayer de maîtriser le chauffeur et on est allé voir en dessous des débris, c'est-à-dire là entre le bus et les murs qui ont été percutés, on essayait de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. On a retiré quelques débris, on a trouvé un enfant qui était sauvé réellement. Il n'y avait pas une blessure grave en lui. On a réussi à le sortir. Il était correct. Il pleurait, le petit, mais il était réellement correct. Il n'y a pas de choses graves. Après, on est revenu pour remaîtriser encore le chauffeur parce qu'il bougeait très fort. Il y avait un homme, il y avait un autre homme que je peux pas l'oublier aussi. C'est un homme âgé parce qu'il avait les cheveux blonds. Peut-être qu'il a 60, 65 ans, mais il réagit comme un enfant de 25 ans. L'homme, il était en train de courir de partout. Il prenait du poids des débris pour les jeter à l'extérieur. Donc après, j'ai essayé de se glisser un peu entre le bus et le mur parce que j'ai entendu une voix d'une fille. C'est ça qui me panique un peu jusqu'à maintenant parce que la fille, j'ai entendu qu'elle souffrait, la souffrance, mais j'étais pas capable de la voir parce que j'ai cherché, il faisait un peu noir en dessous du bus. J'ai cherché entre les débris, mais j'ai rien trouvé, malgré que j'ai entendu la voix. Et c'est là que les policiers ont intervenu pour, en premier lieu, directement mettre les menottes pour le
chauffeur.
Et après, ils ont commencé à crier pour nous demander de sortir parce que c'était la panique totale. On a resté, mais dès que le plafond a commencé à, il y a des petites parties du plafond qui ont commencé à tomber. C'est là que les pompiers ont intervenu pour demander à tout le monde qu'ils sortent. Même les policiers leur demandaient de sortir parce que c'est un peu dangereux. Les policiers n'ont pas des casques pour être protégés. Donc voilà, donc on a sorti à l'extérieur et les policiers et les pompiers ont pris le relève pour faire tout.
Dites-moi, est-ce que le chauffeur a dit quelque chose à un moment ou à l'autre ou simplement il criait, se débattait, se désorganisait?
Réellement, il criait parce que même après un petit recul, j'ai parlé avec ma équipe, bon, je vais dire son nom, c'est le brave type qui a commencé à maîtriser le chauffeur. J'ai parlé avec lui, j'ai dit, j'ai pas entendu des mots que je comprends parce que j'ai entendu seulement que des cris. Il était en rage, je sais pas. Il criait, c'est tout ce qu'il a. Il a voulu résister aussi parce que le mec, il n'est pas costaud. Et nous étions quatre. On a trouvé de la misère à le maîtriser. Parfois, on était les quatre en dessous de lui.
Mais la force de la colère peut décupler la puissance qui fait que...
Oui, c'est ça. Parce que je vous dis, Monsieur Paul, c'est... Peut-être qu'il faisait 65 kilos. Il n'est pas costaud, il n'est pas gros, il est petit. Moi, Mike, il y a un autre parent. On était réellement trois parents, l'homme âgé et moi, c'est-à-dire cinq au total. Mais on a trouvé de la misère à le maîtriser jusqu'à ce que la police est venue. On a demandé qu'elle lui mette les menottes. Et dès qu'ils l'ont rentré, ils l'ont menotté et ils l'ont sorti comme ça, tout nu, pour le mettre dans la voiture. Ils m'ont dit par la suite, même en sortant, qu'il a résisté un peu ou il a réagi mal. Mais c'est ça.
Parlez-moi des enfants. Vous m'avez dit, j'ai pu retirer des débris. Une petite fille qui était blessée légèrement.
Un garçon qu'on a sorti, oui.
Okay. Et l'autre, vous l'avez pas trouvé?
L'autre, on n'a pas trouvé. J'ai entendu sa voix, sa souffrance réellement, mais on n'a pas trouvé.
Et puis, est-ce
on
que
a
vous...
pas trouvé...
Oui. Non, j'allais dire, on ne l'a pas trouvé. Puis, est-ce que vous avez vu d'autres enfants à l'intérieur de la garderie?
Oui, parce qu'on est allé... Bon, je suis allé à l'intérieur de la garderie. Il y a une autre salle au fond. C'est là que tous les enfants ont été mis dans une salle à l'intérieur. Là où il y avait aussi les enseignants de la garderie. Tous les enfants pratiquement ils pleuraient. Même les enseignants étaient paniqués. Ils pleuraient. Il y a des cris. C'était une scène un peu tragique.
Vous êtes vous-même père d'un enfant?
Je suis un père d'une enfant, mais ma fille réellement, elle ne va pas là, parce qu'elle est à l'école réellement.
Je comprends, mais en même temps, vous êtes parent.
Oui, je suis parent. Et encore, je vais vous dire une autre chose beaucoup plus pire, c'est que les parents ont été mis devant une école, l'école du parc. C'est là où ma fille, c'est l'école que ma fille fréquentait. Et ils sont là et il attend. Je sais pas comment vous dire ça. Un parent qui attend un résultat pour leur dire votre enfant est vivant ou est décédé. C'est ça. C'était là. C'était leur attente. C'était très difficile, très 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 difficile. Le monde ils savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas le droit d'y accéder à la garderie. On était à presque à 600, 500, même plus, 700 mètres. Vers l'école, c'est là où on a resté en attendant qu'ils commencent à évacuer les enfants.
Merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous. C'est vraiment apprécié. Allez vous reposer, puis bravo pour ce que vous avez fait avec les autres pères, les autres hommes qui étaient là, puis qui sont intervenus. Chapeau, monsieur. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Paul. Merci. Bonjour.
Au revoir. Hamdi Ben Chaban, qui était intervenu hier matin avec les autres. Tout ça se passe évidemment très rapidement, mais ils ont pu maîtriser le chauffeur. Et je le sais que vous vous posez la question, quel est le mobile? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un termine son circuit d'autobus et décide de foncer vers une garderie. On n'a pas de réponse. Et rien n'a filtré. Et tu dis peut-être qu'il va créer quelque chose, peut-être qu'on va comprendre. Hier, des gens disaient « Ouais, mais la rumeur veut que sa femme travaille à la garderie », ce qui est faux. Il n'a pas de lien avec la garderie. Il n'y a pas d'enfant à la garderie. Alors, tout ce qu'on voit, c'est que c'est une garderie qui était sur son parcours de travail. Point final. Puis là, je sais que ça ramène toute la question sur la santé mentale, puis tout ça, puis on va en reparler dans les prochaines minutes.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Tout de suite, on va aller retrouver à Laval, tout près de la garderie Sainte-Rose, Bénédicte, qui est là depuis très, très tôt ce matin, qui a passé la journée hier. Et Bénédicte, donc, évidemment, l'enquête policière, la scène de crime est toujours analysée. Il faut dire que dans un premier temps, l'autobus a été remorqué en fin de soirée hier.
Ouais, autour de 23 heures et on s'affaire toujours. Les policiers sont là. Il y a toujours un périmètre de sécurité qui empêche d'avoir accès à la garderie. Hier, il y a des pompiers qui étaient là pour faire des expertises sur le bâtiment parce que on s'entend que l'autobus est carrément encastré. On voulait faire des expertises sur la scène et je crois comprendre qu'il y en aura possiblement encore aujourd'hui. Et tu le disais, l'enquête se poursuit et c'est difficile de comprendre parce qu'il y a rien qui a filtré sur le mobile de l'homme, qu'est-ce qui l'a motivé à foncer sur cette garderie-là? Parce que pour l'instant, tout indique qu'il n'y aurait pas de lien avec la garderie. Et il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ont circulé hier. On a entendu parler de possiblement sa conjointe qui travaillait pour l'établissement, que ses enfants fréquentaient l'établissement, mais tout ça a été démenti. Alors pourquoi cet endroit-là a été visé? On n'a toujours pas la réponse. Pierre Nie Saint-Amand, 51 ans, fait face à 9 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Encore sur place ce matin, on le sent, il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens ont de la difficulté à trouver des mots. Surtout que là, on approche de l'heure où ça s'est passé, vers 8h30 hier, 2 enfants de 4 ans qui ont perdu la vie. Les parents qui allaient porter, qui allaient reconduire leur enfant à la garderie comme n'importe quel matin, ont l'impression de les laisser en sécurité juste avant que, justement, cet autobus-là ait s'encastré. Il faut le rappeler, c'est vraiment un coin reculé. Là. Je suis devant la scène, je le vois encore. Il faut vraiment que tu aies dans ce rond-point et que tu parcours le stationnement pour pouvoir te rendre à la garderie. Donc, possiblement que le conducteur voulait se rendre là ou connaissait du moins le coin. C'est une scène qui était horrible pour les gens qui se sont rendus sur place, qui rapidement sont intervenus, des voisins notamment, parce qu'ils ont entendu l'impact. J'ai parlé avec Geneviève Amiel. Elle est éducatrice, mais dans une autre garderie, mais elle a entendu l'impact et rapidement, elle est intervenue auprès des petits bouts de choux. Je te laisse l'entendre.
J'ai hésité, je vous dirais, une fraction de seconde entre est-ce que je vais vers l'autobus ou je vais vers les cris d'enfants. Puis finalement, j'ai préféré aller vers les cris d'enfants. Je me suis dit qu'il y avait déjà les policiers autour de l'autobus. Fait que je suis rentrée dans la pouponnière. Puis les éducatrices sur place avaient déjà rassemblé tous les enfants dans la pouponnière. Puis il y avait les paramédics qui apportaient quelques enfants blessés dans la pouponnière aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de cris d'enfants et de pleurs, évidemment. Fait que j'ai accroché une éducatrice pour lui demander ce que je pouvais faire. Puis elle m'a dit, tu vas aider à habiller les enfants pour qu'on les sorte dehors.
Et c'était crève-cœur hier de voir les parents parce qu'on le disait un peu plus tôt, la scène, le périmètre était vraiment loin de la garderie. On avait fait une cellule de crise dans une école qui était à 600-700 mètres à peu près de la garderie. Et là, les parents accouraient là, avaient pas de réponse tout de suite. Le temps qu'on habille les enfants, qu'on les amène, l'incompréhension, les questions et certains parents qui ont appris que leur enfant avait été transporté à l'hôpital, d'autres qui ont appris des nouvelles beaucoup plus dramatiques aussi. Des pleurs, des cris, je te dis, c'était vraiment chaotique à cet endroit-là. Et beaucoup de questions aussi. Pourquoi cet homme-là a fait ça? Ce qu'on a pu savoir, ce qu'on a pu établir, du moins comme profil pour l'instant, un conducteur à la STL depuis une dizaine d'années, un homme qui n'est pas connu des policiers, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, un père de famille. Ses voisins disent que c'est un homme qui était discret, qui ne faisait pas de vagues trop. Donc, on ne comprend pas trop pourquoi il aurait foncé délibérément dans cette garderie-là. Comme je le disais tantôt, aurait pas de lien avec la garderie. Et clairement, on l'entendait tantôt dans le témoignage, il était en crise quand ça s'est passé. Il s'est dévêtu après la collision, le regard vide. J'ai parlé avec Ginette, elle, son mari est intervenu pour maîtriser l'homme, et elle l'a vu quand il a été arrêté. Et justement, elle l'a dit, il avait clairement l'air pas bien du tout. On l'écoute.
Quand les policiers ont pris le monsieur, là, tu sais, pour écoute, il traînait, là, carrément, là, tu sais, pour l'emmener dans l'auto, puis son regard, là, c'était vide, là, tu sais, c'est comme... Il s'est adonné comme... J'étais toute seule, là, tu sais, fait qu'il s'est adonné comme à me fixer, puis j'ai comme... Puis j'ai l'homme aussi, puis je l'ai fixé jusqu'à temps qu'il rentre dans l'autoroute. Là. Je sais que les policiers, je peux vous dire, que je peux vous confirmer qu'ils ont eu de la difficulté à l'embarquer dans la voiture, là, parce qu'ils résistaient, là, tu sais. À un moment donné, il y était deux policiers, puis ont demandé de l'aide de d'autres personnes, puis nous aider. On est, tu sais, on a besoin d'aide, là. Il voulait pas embarquer dans la voiture.
Et la comparution aussi, c'était particulier hier au palais de justice de Laval. Lui, il a comparu à partir de son lit d'hôpital. Et à un moment donné, on a demandé de le faire par visio. On a demandé d'allumer l'écran parce que on lui demandait s'il entendait. Les policiers disaient que oui, lui disait que non. C'était un peu confus. On a suspendu, on est revenu. On s'est entendu sur le fait qu'il était apte à comparaître. Mais là, à un moment donné, pendant une pause, le policier est revenu en disant qu'il l'avait frappé à la tête, que l'homme avait frappé le policier à la tête. Et là, on a dit que le médecin a demandé à ce qu'il y ait une évaluation psychiatrique, mais on a spécifié que c'était pour évaluer son degré de dangerosité et non son aptitude à comparaître. Donc, lui, il va revenir le 17 février prochain devant les tribunaux. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu des policiers toute la journée, évidemment, devant chez lui, à l'intérieur de la résidence. On rencontre ses proches qui nagent, semble-t-il, dans l'incompréhension eux aussi. On essaie de voir est-ce qu'il aurait pu laisser des messages, des notes, des signes de ce qu'il allait faire. Et vraiment, ben c'est la question que tout le monde se pose ce matin. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que cet homme-là s'est attaqué à cette garderie-là en particulier?
Merci beaucoup, Bénédicte.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Très bien. Donc, c'est un chauffeur de la STL qui, hier matin, pratiquement à la même heure, a foncé vers cette garderie. On a reçu beaucoup de courriels de chauffeurs qui sont évidemment bouleversés. Plusieurs aussi ce matin qui remercient la clientèle d'afficher une certaine compréhension, un certain respect, parce que beaucoup sont toujours en état de choc. Richard Ouimet est l'ancien président du syndicat des chauffeurs. Lui-même a été chauffeur durant 21 ans. Monsieur Ouimet, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Vous avez dit hier, je l'ai croisé, c'est un gars qui est là depuis une dizaine d'années, mais quelqu'un de plutôt effacé, si j'ai bien compris, là.
Oui, c'est un gars qui était quand même tranquille, respectueux, bonjour, déplaçait pas d'air, jamais on l'aurait pu imaginer ça. Là, c'est un gars excessivement tranquille à sa place.
OK, mais quand vous dites qu'il est tranquille, ça veut dire quoi, ça?
Ben, ça veut dire que c'est un chauffeur qui fait son circuit, qui déplace pas d'air, toujours poli avec tout le monde... Il n'y avait pas beaucoup d'échanges, mais c'est pas tout le monde qui vient au bureau du syndicat non plus. Mais quand on le croisait, c'était toujours très cordial avec lui.
Puis de ce que vous savez, sa feuille de route était correcte aussi. Là, il n'y avait pas de...
Oui,
en plus.
Oui, j'ai jamais passé cet individu-là à la discipline ou quoi que ce soit, ou que la STL lui reprochait quoi que ce soit, jamais.
OK.
Le temps que j'étais là, non.
Dites-moi, là, vous avez encore des amis chauffeurs, vous avez encore des contacts. Qu'est-ce qui se dit depuis hier?
Ah, écoutez, les chauffeurs qui j'ai reçu peut-être une cinquantaine d'appels hier sont dévastés. Là. Personne ne peut penser qu'un de ses collègues de travail fasse ce geste-là, pose ce geste-là. C'est inimaginable. Même moi, le premier, quand j'ai vu ça, j'ai su assez vite c'était qui. Là. Mais jamais j'aurais pensé qu'un collègue de travail puisse agir comme ça. C'est inimaginable. On peut pas penser ça.
Les programmes d'aide pour les chauffeurs, ça se passe comment à la STL?
Je vous dirais que c'est quand même facile d'avoir accès avec ça. On a juste à téléphoner, c'est confidentiel, puis on a des rendez-vous très rapidement. Est-ce que le monsieur s'en est servi? Ça, on ne le sait pas, mais c'est très facile d'avoir des rencontres avec le PA.
OK, mais d'avoir des rencontres, c'est une chose, puis d'avoir un soutien, un suivi aussi?
Oui, je vous dirais que ce qui est compris, là, c'est 6 visites, mais s'il y a des urgences ou que la psychologue ou le psychologue qu'on a voit qu'on a besoin de plus de rencontres, ils peuvent étirer ça de 4, 5, 6 rencontres. Là. Oui, ça, il n'y a pas de problème avec ça.
OK. Est-ce qu'il y a des évaluations périodiques des chauffeurs? Puis je parle pas de compétences de conduite, là, mais je sais pas moi, des vérifications psychologiques. Est-ce que ça existe?
Non, il n'y a pas ça à la STL. Non.
Parce qu'on...
À moins que quelqu'un pose un geste ou qu'il y ait un doute, oui, ça pourrait arriver. C'est déjà arrivé une fois quand j'étais là. Mais en général, non. Les personnes rentrent, vont au Poinçon, ils prennent les autobus, ils s'en vont, puis ils font des journées, puis après ça, ils s'en vont chez eux. Non, il n'y a pas y a ça. À moins qu'il y ait un signe, là, que soit le syndicat ou que la STL s'aperçoive de quelque chose, et on va s'en parler, mais non, il n'y a pas de tests ou d'évaluation, non.
OK. Et est-ce que ça arrive souvent dans une année qu'on a des cas là, de chauffeurs qui ont besoin d'aide, là, et qu'on a détecté peut-être un changement d'attitude, de comportement?
Ça a déjà arrivé. Est-ce que ça arrive souvent dans l'année? Je vous dirais qu'on peut pas évaluer ça si ça arrive souvent dans l'année. Non, mais ça a déjà arrivé. Là, une année, il peut en avoir deux, trois. Une année qu'il n'y en a pas du tout. Mais oui, j'ai déjà participé avec des chauffeurs qui avaient des problèmes. Souvent, les chauffeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent le syndicat. Il y a eu des détresses d'ennui. Ils nous ont appelés. La STL participe à ça. Puis le syndicat va voir la STL. Ou vice-versa, si le chauffeur va voir la STL. Les dirigeants, en général, ils viennent au syndicat. Mais la STL a toujours été ouverte à aider ses travailleurs, ses employés. Puis, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Mais oui, il y a eu des cas comme ça. Mais pas comme celui-là.
Non, c'est sûr.
Des cas qui ont demandé de l'aide, oui.
Mais c'est parce que c'est quand même une responsabilité de conduire un autobus avec des passagers toute la journée. Tu veux être sûr que la personne est en contrôle d'elle-même là, puis qu'elle n'est pas trop affectée par des problèmes personnels.
Mais effectivement, c'est important. C'est une grosse responsabilité. On s'en va qu'un un autobus rempli de... On peut être à 80 passagers dans l'autobus, 60 à 80. C'est une responsabilité. Fait que oui, effectivement, il faut que la personne soit quand même lucide, soit capable de conduire, de suivre son trajet. Mais généralement, quand une personne, ça a déjà arrivé qu'on voit qu'il peut avoir des problèmes, va se tromper sur son circuit... On va s'en apercevoir quand même assez vite. Les collègues vont voir, il n'est pas tourné à la bonne place. Bon, ça peut arriver une fois qu'on se trompe, mais si c'est régulièrement, il suit pas son trajet, il va être débarqué de l'autobus puis il va être rencontré.
Juste une question technique. On a compris hier que c'était la fin d'un circuit, une espèce de rond-point. Normalement, c'est quoi? Tu fais le tour du rond-point puis tu reprends une route?
Oui, où est-ce que c'est arrivé? C'est le circuit 151, c'est le terminus puis le départ quand on repart. Généralement, dans son assignation, j'ai regardé, je pense qu'il y avait 10-15 minutes d'arrêt. On stationne un petit peu avant l'abribus. Bon, si la personne fume, va débarquer dehors, fume une cigarette, va prendre son café. C'est un petit moment de repos. Puis après ça, elle fait de la loupe, elle embarque les gens, puis elle part.
Et quand la personne arrive là, donc il n'y a plus de passagers à bord, là, c'est la fin de route là.
C'est ça. Les passagers débarquent à un arrêt un petit peu avant, puis c'est comme une pause là, pour repartir sur un autre circuit ou le 151, mais lui, il repartait avec une 151.
Parfait. Merci beaucoup, M. Ouimet.
Bonne journée.
Merci, au revoir. Richard Ouimet, l'ancien président du syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Depuis hier, on parle encore de santé mentale avec raison. Est-ce que l'homme avait un problème? Est-ce qu'il a un problème de santé mentale? Est-ce qu'il y a une maladie? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis ce matin, je prends connaissance dans le Devoir des résultats d'une vaste enquête sur la santé mentale des jeunes. Puis il y a des chiffres effarants sur l'anxiété, sur l'angoisse et même sur les idées noires. Docteur Mélissa Généreux est médecin conseil à la santé publique de l'Estrie. Elle est la responsable, une des responsables de cette enquête. Docteur Généreux, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, vous avez sondé, scruté 18 000 Québécois de 12 à 25 ans. Il y en a qui fréquentent le cégep, l'université, dans différentes régions du Québec. Et le nombre de filles qui ont des symptômes d'anxiété ou encore de dépression, là, c'est pratiquement et même plus qu'une fille sur deux.
Oui, exactement. C'est sûr que je veux préciser ici qu'on parle pas de diagnostic clinique,
non.
Mais vraiment de cumul de symptômes qui sont compatibles avec un trouble anxieux ou une dépression. Donc, c'est vraiment ce que les jeunes filles et les jeunes garçons nous rapportent, mais il en demeure pas moins que pour atteindre un score de symptômes modérés à sévères, il faut vraiment avoir eu plusieurs de ces symptômes-là au cours des deux dernières semaines, et ce, de façon récurrente. Donc oui, je pense que ça témoigne d'une certaine souffrance ou détresse psychologique, là, particulièrement chez nos jeunes filles.
Êtes-vous étonnée des résultats?
Malheureusement, plus ou moins, parce que c'est pas la première fois qu'on fait cette enquête-là. Ça fait 4 ans qu'en janvier, à chaque année, on fait l'enquête. Et l'an passé, les résultats étaient même pires. Pas beaucoup, là, mais bon, et à ce moment-là, on le mettait beaucoup sur le compte de la pandémie, le confinement, les mesures sanitaires. C'est juste que là, on aurait peut-être espéré qu'un an plus tard, la situation se soit grandement améliorée. T'sais, qui sait, peut-être, vu que les mesures sanitaires ne sont plus là pour venir teinter notre vie. Puis finalement, on voit que malgré tout, là, les jeunes continuent à aller plus ou moins bien.
Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui les rend anxieux, qu'est-ce qui les rend dépressifs?
Oui, bien évidemment, on a essayé d'aller tenter le coup aussi à ce niveau-là. Puis je tiens à dire que le questionnaire, il a été bâti beaucoup avec les partenaires du milieu scolaire, de la santé, c'est ceux qui travaillent constamment avec nos jeunes. Et ce qu'ils nous disaient, c'est vous pouvez pas passer à côté de deux éléments. On doit regarder la relation qu'ont les jeunes avec l'écran et on doit regarder aussi la relation qu'ils ont avec le travail. Parce que ça, c'est vraiment deux éléments qui étaient présents avant la pandémie, mais vraiment moins que maintenant. Et effectivement, on a pu voir dans nos données que les jeunes travaillent plus que jamais. Dès le secondaire 1, ils travaillent beaucoup et sont les premiers à dire que ça diminue leur temps pour les loisirs, les relations sociales, même l'activité physique. Puis un petit peu le même son de cloche vient pour le temps d'écran. Les jeunes sont vrais, surtout les jeunes filles, passent énormément de temps devant les réseaux sociaux et c'est directement associé à une propension plus grande pour l'anxiété et la dépression chez les jeunes filles.
Parce que, entre autres, elles vont sur des réseaux sociaux, puis on peut évidemment deviner dans certains cas le type d'échange des filles qui sont ostracisées, qui sont pointées, qui sont bon. Ça fait partie malheureusement de leur vécu, c'est ça?
Oui, ben on leur a demandé, hein, qu'est-ce que ça a comme impact pour toi, les écrans? Puis on a décidé d'être quand même neutre en disant que ça peut être des impacts tantôt positifs, tantôt négatifs. On a regardé au niveau des relations amicales, amoureuses, le sommeil. Et ce qui est ressorti comme étant plus de la sphère des impacts négatifs, là, les jeunes filles et les jeunes garçons disent que les écrans, ça nuit à leur sommeil, beaucoup. Ça nuit à leur réussite à l'école. Pour les jeunes filles, ça nuit à la perception qu'elles ont de leur apparence. Donc, il y a quand même déjà plusieurs éléments cités. Par contre, c'est intéressant de voir que les mêmes jeunes filles disent que ça les aide dans leurs relations avec les amis et même les relations amoureuses. Donc, c'est un petit peu comme s'il y avait un déplacement là, de la façon d'entrer en relation avec leur père, d'y aller un petit peu plus par la voie virtuelle que la voie réelle. Ça, je l'entends beaucoup des intervenants du milieu dire que nos jeunes ont, pas tout le monde, mais plusieurs ont perdu leurs habiletés sociales, ça a créé des vrais liens. C'est comme dans le temps, là, en présence avec des vraies personnes et ils se sont peut-être un peu réfugiés à travers les réseaux sociaux.
Là, on vient de parler principalement des filles. Les gars, c'est quoi le portrait?
Oui, les gars, c'est sûr que je ne veux pas qu'on retienne que tout va bien. Puis je pense que lorsqu'on regarde justement des comportements d'agression autodirigés vers soi là, qui peut mener à du suicide ou des comportements d'agression envers autrui, on voit que c'est souvent même plus fréquent chez les hommes. Donc, il y a un mal-être qui se traduit d'une autre façon. Je pense qu'il ne faut pas penser que les jeunes garçons vont super bien pour autant. C'est juste que dans notre enquête, ils vont moins l'exprimer sous forme de symptômes d'anxiété, dépression. Est-ce qu'ils le reconnaissent moins et sont moins même à l'aise de répondre à la question franchement? Est-ce que c'est un peu plus enfoui, enterré? Puis comme je dis, ça se traduit par d'autres formes de comportement, c'est possible, mais nous, on n'a pas pu vraiment le capter dans notre enquête, si ce n'est que les garçons à l'université étaient beaucoup plus nombreux à consommer cannabis ou alcool, mais bon, pas non plus à des niveaux là, qui étaient si alarmants que ça.
Merci, Dr. Généreux. Bonne journée.
Ça fait plaisir.
Au revoir, Dr. Mélissa Généreux est médecin conseil à la santé publique de l'Estrie et responsable de l'enquête.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.